Voilà, on va passer, donc nous avions vu le psaume 110, après avoir vu les psaumes 1, 2, l'ouverture du psautier, des psaumes de louange, de la fin du psautier, et aussi le psaume 8, hein, Seigneur, votre Dieu, qu'il est grand, ton nom, qui s'élève la grandeur de Dieu et de l'homme à l'intérieur de l'univers. Je ne sais pas si vous avez dit que à l'époque où il y a eu le voyage sur la Lune, le pape Paul VI avait confié un exemplaire du texte du psaume 8 aux astronautes en leur demandant de le déposer sur le sol de la Lune. Hein, qu'est-ce que l'homme, pourtant, tu l'as fait, etc. Voilà. Donc, alors la fois passée, nous avions vu le psaume 110, qui est important comme psaume pascal, sur le Seigneur a dit à mon Seigneur. Seigneur Dieu, à dire mon Seigneur, même ici, siège à ma droite pour l'élévation du Christ comme roi Messie dans sa résurrection, mais aussi pour l'envisager comme prêtre. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. C'est dans ce même psaume. Voilà, merci. Voilà, donc ce psaume 110 qui célébrait le Christ dans sa royauté messianique et son sacerdoce royal en même temps. Alors aujourd'hui, je vous propose le psaume du bon berger d'abord, et puis nous entrerons dans des psaumes de supplication, des psaumes de demande de pardon, psaumes pénitentiels. Le psaume du bon berger, vous le connaissez bien, je lis d'abord le texte. Psaume de David. C'est pas innocent puisque David a été berger. De David, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Un psaume assez bref, hein, de 6 versets, comme le premier psaume du psautier, si je me souviens bien. Je suis un peu les notes que je vous propose sur la page 26 des commentaires. Je vous avais donné la fois passée, vous avez tous vu ça. Alors, ce psaume bref, comme je disais, 6 versets, est célèbre. On voit des représentations du Seigneur comme bon pasteur déjà dans des mosaïques anciennes, hein, à Rome, etc. Le refrain, le Seigneur est mon berger, de Gédéo, bien, et puis il y a eu beaucoup de mises en musique de ce psaume. Il appartient au premier livre du psautier, qui est formé par les 41 premiers psaumes, et qui est sans doute le fond le plus ancien du psautier. Et il est peut-être lié au culte de Jérusalem. On dit ça en pensant au verset, au dernier stick, au verset 6b. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. La maison du Seigneur, vous savez que c'était une manière de désigner le temple. D'ailleurs, dans la nouvelle traduction liturgique, là où il est mis dans le temple, dans des visions d'Ézéchiel, on traduit la maison. C'est littéral, mais je trouve que c'est peut-être pas l'idéal, parce que si les gens ne saisissent pas qu'il s'agit du temple dont on parle, ils perdent un peu la portée. Enfin, ici, la maison du Seigneur semble désigner le culte du temple à Jérusalem. Donc, il est peut-être lié à ce culte. Et ce premier livre du psautier est très marqué par l'omniprésence, 273 occurrences, du tétragramme, les quatre lettres qui désignent celui qu'on nomme Adonai, pour ne pas prononcer Yahvé, le tétragramme. Et précisément, dans ce psaume-ci, ce tétragramme, cette manière de le Seigneur, est présente en inclusion, c'est-à-dire typiquement au premier verset et au la seconde partie du dernier verset, à la fin. Un terme peut être dit faisant inclusion s'il n'apparaît que là. S'il apparaît 3-4 fois, c'est plutôt un motif récurrent, un leitmotiv ici. la nomination de Dieu par le tétragramme fait inclusion. Alors la figure du berger, en fait, émerge bien sûr dès l'époque du nomadisme patriarcal. Le premier berger, quand même, c'est Abel, aussi au livre de la Genèse, qui était berger et Caïn était cultivateur. La figure du berger émerge dès l'époque du nomadisme des patriarches, mais on la trouve aussi en dehors de la Bible, puisque la réalité nomade n'était pas qu'en terre, qui allait devenir la Terre Sainte, mais ailleurs aussi. Par exemple, concernant Hammurabi, qui est un souverain de la première dynastie babylonienne, vers l'époque d'Abraham, vers le 18e siècle avant le Christ. Et Hammurabi n'était pas tellement un roi conquérant ou guerrier qu'un roi sage et organisateur. Et il est bien connu pour le fameux code de Hammurabi, un exemplaire au Louvre, une pierre taillée avec des articles de loi régissant la vie sociale. Et par parenthèse, on voit que des lois que l'on trouve dans des passages plus législatifs du Pentateuque connaissait le code de Hammurabi et s'en inspirait, et c'est intéressant de faire la comparaison pour voir en quoi la Bible affine, se démarque, corrige. Mais Hammurabi est connu par le fameux code de Hammurabi, un grand code de loi civile pour l'organisation de la vie dans le vaste territoire qu'il dirigeait à l'époque. Et il est nommé, ce roi sage et organisateur, il est nommé d'ailleurs le berger bienveillant. Moïse et David ont été bergers. Moïse a quand même gardé les troupeaux de son beau-père Jéthro lorsqu'il a fui l'Égypte pour aller en Midian. C'est une période de sa vie où il a été berger. Et puis David, bien sûr, parmi les fils de Jessé, c'est le petit dernier qui était derrière le troupeau, bien qu'on ait été. Que Samuel a été faire chercher pour lui donner l'onction. Donc David a été berger. Même de Cyrus, donc c'est le roi perse qui a permis la libération de l'exil à Babylone, au 5e, début du 6e siècle avant le, enfin, 6e siècle avant le Christ. Dieu dit dans Isaïe, c'est mon berger, au sens où il va se comporter favorablement pour le peuple de Dieu, en notamment lui permettant de regagner son pays et reprendre son culte et reconstruire la nation au retour d'exil. À l'encontre des mauvais pasteurs d'Israël, qu'ils fustigent, Dieu s'annonce comme le vrai berger de son peuple. Il y a de nombreux passages de Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, où Dieu condamne les pasteurs indignes de son peuple, qui plutôt que de prendre soin de la brebis faible, égarée, etc., choisissent les meilleures brebis du troupeau, les mieux engraissées, pour, je dirais, en faire des festins, et négligent le reste du troupeau, au sens métaphorique, du peuple qui leur est confié. Eh bien, Dieu n'hésite pas à fustiger, à dénoncer les mauvais pasteurs, et il s'annonce alors comme le vrai berger de son peuple. À un moment donné, lorsque Dieu attente procès à ces mauvais bergers, il dit, eh bien, si c'est comme ça, je vais reprendre moi-même le pastorat, la direction de mon peuple. D'autant qu'un pasteur se profile, qui, et là je cite une expression du VTB, le fameux vocabulaire de théologie biblique, s'identifie concrètement au serviteur qui, telle une brebis muette, doit par son sacrifice justifier les brebis dispersées. Donc, on entrevoit un berger, mais qui en même temps une brebis. Donc, par là, la solidarité avec son peuple est dans les chants du serviteur d'Isaïe, hein, Isaïe 53, qui est ici nommé, eh bien, ce serviteur souffrant est conduit à l'abattoir, telle une brebis muette. Il n'ouvre pas la bouche, mais par son sacrifice, il va justifier les multitudes, les brebis dispersées. C'est bien sûr une annonce de Jésus, à la fois le bon pasteur et l'agneau de Dieu, sacrifié pour Voilà un peu quelques mots sur la situation du psaume et sa thématique. Alors on a une hésitation textuelle, donc où par rapport au texte hébreu, on peut comprendre deux verbes différents. C'est pas simplement une question technique, ça engage aussi une compréhension un petit peu différente de la fin du psaume. Au verset 6, « J'habiterai la maison du Seigneur ». Ça commence par une... Le mot hébraïque commence par une lettre qui s'écrit comme ça, et puis il y en a une autre, etc. On lit de droite à gauche. Et la première lettre, ça peut être un « v » ou bien un « ye » si on la fait trop court. Et donc, selon qu'on a « veshafti » ou bien « yashafti », c'est le verbe complet, ça donne deux sens différents. Donc il y a hésitation sur la graphie, à partir de la graphie de la première lettre, et par là, on tombe devant sur deux verbes différents. Est-ce qu'il faut comprendre « j'habiterai » en lisant « yashafti » c'est ce que j'ai mis à droite, c'est un « yot ». C'est comme ça que la traduction grecque de la Septante et puis la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine, manifestement ont compris le texte hébraïque qu'elle traduisait. Ou bien, est-ce qu'il faut comprendre, je reviendrai. À ce moment-là, c'est ve qui veut dire et shafti, je reviendrai. Du verbe shuv. En lien avec le verset 3a, d'ailleurs, où ce verbe-là est clairement et indubitablement attesté, là où il est dit « mon âme, il la fait revenir ». C'est ce qui est traduit par « il me fait revivre », littéralement, « mon âme, il la fait revivre ». Il la fait revenir, il la restaure. Alors, la Bible de Jérusalem retient la première option, « j'habiterai ». Donc pour traduire à la fin du psaume, j'habiterai la maison du Seigneur plutôt que je reviendrai vers la maison du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. De même, la traduction de Dorme, que tu vas citer, hein, c'est une bonne traduction dans la Pléiade, qui note, il y a toujours des notes instructives. D'après cette dernière strophe, selon l'interprétation qu'il propose, en comprenant j'habiterai la maison du Seigneur. D'après cette dernière strophe, on voit qu'il s'agit d'un jeune lévite, c'est-à-dire dédié au service du culte, le membre de la tribu de Lévi était prêtre, un jeune lévite qui va trouver la paix au service du Seigneur dans le temple. Son avenir est assuré comme celui de la brebis sous la houlette du bon pasteur. Les adversaires sont ceux qui ont voulu contrarier sa vocation. Une question d'ennemis et d'adversaires, là, au verset 5. Et alors il dit, comparez psaume 27,4. Il a souvent des petits renvois comme ça, patch, d'un mot. Alors il vous laisse faire le travail d'aller fouiller dans votre Bible. Et c'est souvent des renvois intéressants. Si on lit, hein, je vous ai mis ce qu'on trouve au verset, au psaume 27,4, 26 dans le psautier. Hein, quand vous ne trouvez pas, vous décalez d'un chiffre pour voir. Le psautier 26,4 dit « La seule chose que j'ai demandé au Seigneur, celle que je recherche, c'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. » C'est quand même équivalent à la finale, ici compris. « J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours, pour contempler la douceur du Seigneur et pour avoir soin de son temple. Hein, » donc ça va, citation qui est un peu dans le sens de l'interprétation ici proposée. Et qui donne un cadre, si c'est un jeune lévite qui se dispose à retourner au service du Seigneur dans le temple, ça donne une tonalité à la manière dont on peut comprendre le psaume. Le mouvement du psaume. Alors, sur le bas de la page, je vous ai mis un tableau de traduction plus littérale du père Rademacher, hein, toujours plus technique, si vous voulez, quitte à ce que le français ne soit pas très élégant, mais à rendre exactement les termes hébraïques. Dans l'hébreu, le texte est riche en sonorités. Par exemple, les verbes, le jeu des verbes nachal, nachak, naham. Vous voyez qu'il y a, ça commence tous par na, et puis il y a des variations. Nachal, nachak, naham. En effet, au verset 2b, Alme Menuchot, Yonachaleni, il me mène. Ni, c'est le suffixe qui désigne le complément moi, il mène moi. Yonachaleni, il me mène. Au verset 3b, je lis, il me conduit par le juste chemin, Yanecheni. Il conduit moi, il me conduit. Et au verset 4b, c'est ça qui m'a dit, Emma, bien c'est ça. Ton bâton me dit et me rassure. Yonachameni. Yonachameni. C'est voilà les trois verbes en question. Enfin, ceci pour dire que lorsqu'on lit le psaume en hébreu de manière fluente, bien, on sent ses yeux sonores. Mais il y a d'autres éléments, mais c'est un exemple parmi d'autres de la richesse sonore du psaume. Alors le psaume il est encadré par les mentions, dont je l'ai dit, du tétragramme, la désignation du Seigneur, et elles sont quand même relayées par une autre manière de désigner Dieu, qui est importante, qu'on a déjà dit, au verset 3, pour l'honneur de son nom. Le nom du Seigneur désigne la grandeur de sa personne. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, on le lit dans le psaume. Donc relié par son nom. Verset 3. Hein. Le psaume enchaîne deux thèmes. Celui du Dieu berger qui protège le voyageur. Il le met près des eaux fraîches, il le fait pas vivre, il le conduit, il donne de traverser des ravins dangereux, il est rassuré et guidé. Ça, c'est les versets 1 à 4, le Dieu berger qui protège le voyageur. Et puis, on passe, on arrive comme en un lieu de repos, où on s'arrête. Tu prépares la table pour moi, c'est-à-dire, à ce moment-là, c'est le Dieu hôte qui accueille celui qui a cheminé, éventuellement un pèlerin, et bien qu'il accueille dans sa maison, dans son temple. Le parfum dont il est question, au verset 5, tu répands le parfum sur ma tête, efface les traces du voyage, la coupe apaise la soif de la route, ma coupe est débordante. Et pour certains, ce psaume a quelque chose du passage de l'exode pastoral, c'est-à-dire où un peuple nomade avance de lieu en lieu avec ses brebis et guidé par le Seigneur à l'installation en terre promise. On voit bien qu'à un moment donné, on a un lieu de repos, on aboutit, le Seigneur nous accueille à sa maison, et puis il est question de la maison du Seigneur. Là, la pérégrination nomade a fait place à l'installation en terre promise. Le psalmiste parle continuellement en « je, moi hein, ». Le Seigneur est mon berger, si je traverse les ravins, puis il s'adresse, tu prépares la table, mais en disant pour moi, devant mes ennemis. Donc c'est vraiment un psaume dit, exprimé très personnellement, exprimant ainsi un lien plus personnel avec le berger que dans le rapport global qu'on trouve aussi dans d'autres psaumes, berger-troupeau, berger d'Israël, écoute. Là on envisage l'ensemble du peuple. Ici, le psalmiste dit, c'est mon berger. Alors cette intimité personnel se resserre dans les versets 4b et 5 où le psalmiste ne parle plus du Seigneur. Vous voyez qu'il y a un passage là. Jusqu'ici, il a dit il, le Seigneur est mon berger, il me mène, il me conduit. Puis si je traverse la mort, le ravin de la mort, je ne crains pas, car tu. Là, il s'adresse au verset 4 et puis 5 au Seigneur. En tu. Il dialogue avec lui. Pas plus simplement de lui, mais il lui parle au Seigneur en tu pour dire sa confiance face au danger qui sont exprimés par l'expression les ravins de la mort. Yanki Elek Boke Tsalmavet, les chemins de la les ombres de la mort, d'obscurité. Les ravins obscurs, littéralement, des ombres. Verset 4b. Ou bien encore, ça peut être le danger exprimé par les ravins de la mort, ou bien aussi des contradicteurs devant mes ennemis. Les affirmations alternent avec les négations à sens positif, c'est-à-dire « je ne manque de rien »,« je ne crains aucun mal ». Mon Dieu, à la fois positivement nourrit, guide, assure, et puis protège des motifs de crainte ou d'appréhension. Et puis au verset 4b, on a le motif « car ». Il faut être attentif au « car » dans le psaume, qui donne la motivation. « Car tu es avec moi ». Qui acta il m'a dit, car toi avec moi. C'est quand même la définition de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ici, c'est dit en termes personnels, car tu es avec moi. Joue comme une expression d'alliance. Je l'ai mis entre parenthèses, mon frère Emmanuel, Dieu avec nous. Et le verset final ouvre l'avenir. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alors, ce beau psaume a une fortune. Dans la figure du berger dans le Nouveau Testament et puis aussi liturgiquement, je vais dire. Dans le Nouveau Testament, il est repris essentiellement dans la parabole de la brebis perdue, les synoptiques, vous vous souvenez. Quel berger, s'il a 99, 100 brebis et qu'il en perd une par sa rencontre, etc. On trouve chez Matthieu, chez Luc, chez Marc, et que Luc fait jouer dans la série. Une brebis sur 100, une drachme sur 10, un fils sur deux, même deux fils sur deux. Donc, on les trouve chez les synoptiques, mais la recherche de la brebis perdue joue chez lui spécialement dans ce contexte de la recherche par le père de son fils prodigue. C'est ça que je voulais dire. Alors, on était dans la parabole de la brebis perdue, les synoptiques. La figure du beau pasteur, en Jean 10, je dis beau parce que l'adjectif dans le grec c'est kalos. Vous savez que les Grecs disaient, il y a kalos kagatos, le beau et le bon sont proches. Et l'adjectif qui qualifie le pasteur en Saint Jean, c'est littéralement le pasteur le beau. Bien sûr, donc il y a la réalité du beau pasteur et que. En ce passage de Saint-Jean, et puis un peu plus loin, c'est des pois. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, etc. Digestion. Alors, le paix mes brebis de Jean 21, dit à Pierre, dans les apparitions au bord du lac, après la résurrection, sans le pasteur de mes brebis. Ou encore, dans la lettre aux Hébreux, tout à la fin, où le titre étonnamment surgit in extremis. Le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus. C'est assez curieux. La lettre aux Hébreux ne cesse d'envisager Jésus comme prêtre, dit notre grand prêtre suprême, etc. Puis tout d'un coup, à la fin, le grand pasteur des brebis. Et moi, j'ai une petite idée sur la raison, c'est qu'à un moment donné, peu avant ça, la lettre aux Hébreux a évoqué Abel, que je rappelais, qui était pasteur des brebis. Il a parlé du sang d'Abel. Je prends le texte. D'abord dans la lettre aux Hébreux, et puis un petit passage de la lettre de Saint-Pierre, première lettre de Pierre, et il y a d'ailleurs entre ces deux lettres d'étonnante proximité. Voilà. Je prends la fin de la lettre aux Hébreux, juste avant la formule d'envoi. Que le Dieu de la paix, qui a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle le grand pasteur des brebis, notre Seigneur, vous rende apte à faire tout ce qui est bien pour faire sa volonté, etc. Donc il le nomme le grand pasteur des brebis, après avoir rappelé que Dieu l'a fait remonter d'entre les morts par le sang d'une alliance éternelle. Et un petit peu avant, au chapitre 12, au verset 24, il a fait allusion à Abel. Vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, de l'assemblée des premiers-nés, de Dieu, le juge de tous, etc. Et de Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang de l'aspersion qui parle encore mieux que celui d'Abel, le sang d'Abel. Donc, à mon avis, cette mention de Jésus, pasteur des brebis, en lien avec le sang de l'Alliance, fait écho à la mention d'Abel qui a précédé d'assez peu dans la lettre aux Hébreux. Et alors, pour le passage de la première de Pierre, là, en 2:25, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes, dit-il. Et il dira un peu plus loin, en 5:4, et quand paraîtra le souverain berger, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. La première lettre de Pierre parle aussi de Jésus dans sa gloire comme pasteur grand ou souverain des brebis. Ça, c'est pour les reprises dans le Nouveau Testament. Alors, dans la liturgie, c'est un psaume qui est fréquent dans la liturgie dominicale et notamment pour le Christ, la fête du Christ, roi de l'univers, et qui qualifie quel type de royauté il s'agit. Vous vous souvenez qu'au funérailles du roi Baudouin, Daniel savait parler du roi Baudouin comme d'un roi berger. Il avait en tête cette perspective d'un roi qui est autant berger que souverain. Alors, donc, pour le Christ roi de l'univers, et dans la célébration des sacrements de l'initiation. Dès les premiers temps de l'Église, vous savez qu'il y avait souvent un baptistère, même à l'extérieur de l'Église. Hein, vous voyez, c'est encore dans certaines villes italiennes, un baptistère, et il y avait le baptême, et puis après on allait en procession vers l'église. Ou bien, à l'intérieur de l'église, on partait du baptistère qui était, on avait déterminé dans le fond de l'église, comme encore souvent dans les églises, et puis on faisait procession. Et on chantait ce psaume, parce qu'il est très riche. Les nouveaux baptisés remontent de la cuve baptismale. Hein? Il me mène vers les eaux tranquilles. Il est quand même question il me fait revivre près des eaux tranquilles. Non, c'est ce passage-là qu'on vient bien pour évoquer la renaissance du baptême. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Et il remonte de la cuve baptismale, il chante dans la joie ce psaume pendant la procession vers l'église où il reçoit la confirmation. Il recevait, dans le premier temps de l'église, il a eu longtemps à revenir en partie, les sacrements de l'initiation, comme on dit, d'un bloc, c'est-à-dire baptême, confirmation, eucharistie. Alors, pour la confirmation, tu répands le parfum sur ma tête, c'est une onction d'huile, tu répands l'huile sur ma tête, hein, une onction d'huile, comme le confirmer. Bon, et d'ailleurs, il y a déjà eu une onction de Saint-Crème aussi pour le baptême. Hein, parfum sur la tête. Et puis, ma coupe est débordante, ça peut servir à évoquer le festin eucharistique. Tu prépares la table pour moi. Enfin, ça convient bien pour le moment de rite la communion. Et donc voilà ce qui explique l'utilisation précoce de ce psaume, spécialement dans le cadre de la liturgie des sacrements de l'initiation. Mais pas seulement, il y a aussi, si je traverse les ravins de la mort, ça convient pour des funérailles. Donc c'est quand même un psaume qui, par ses images très simples, très fortes, se prête bien à l'utilisation dans un cadre sacramentaire ou sacramental. Le fidèle, fort de la vie sacramentaire, dira Jean-Renard Macaire, peut lutter avec le Christ contre ses adversaires, hein, devant mes ennemis. Apocalypse 7, verset 17, montre l'agneau devenu berger, hein, l'agneau immolé et en même temps glorieux, emmenant les fidèles vers le Père, le banquet eschatologique. Paul Claudel disait, c'est le psaume des convertis, par excellence, ceux qui se convertissent et puis entrent dans l'Église par les sacrements de l'initiation. La prière du psautier de la ville de Jérusalem est toujours instructive, donc elle ressaisit toujours les choses, puisqu'il s'agit des psaumes priés en lumière chrétienne, et bien dans la manière dont ils peuvent résonner pour un chrétien, pas simplement pour un juif. Seigneur Jésus, pasteur de ton Église, ceux que tu as fait renaître dans les eaux du baptême, tu les marques par ton esprit, par l'onction du salut, tu les invites à la table de ton corps et de ton sang. Guide-nous au chemin de la justice pour qu'arrachés aux ténèbres et sans craindre aucun mal, fait passer les ravins de la mort, nous goûtions à jamais le repos dans la demeure du Père. Nous disons qu'il quand même recueille bien les principaux éléments du psaume. Voilà pour ce psaume. Je vous invite à prendre pour que nous puissions passer. On va passer à une autre tonalité. Donc on a eu des psaumes plutôt exultants de louange à la fin du psautier. Le psaume 110, un psaume de gloire pascale. Voilà. Et puis le psaume du bon berger, un psaume de confiance et de joie dans le lien notamment sacramentel avec le Seigneur. Nous allons passer à des psaumes de tonalités différentes, des demandes de reconnaissance du péché, de confession et des demandes de pardon. Le psaume 51-50, vous vous rappelez, le miserere, puisque c'est la formule latine qui commence, prends pitié, aie pitié. Miséricorde, ça veut dire avoir un cœur cordia, cordis, un cœur sensible à la misère. Je vous donne d'abord une introduction un petit peu générale au psaume de miséricorde. Je résume ici des propos plus déployés, plus détaillés que le père Hadermakers avait donné quand il donnait ce cours. Introduction au psaume de miséricorde, d'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire se centrant sur la réalité de l'homme à hauteur d'homme, si je puis dire. Nous éprouvons qu'avancer en âge nous fait toujours plus mesurer nos erreurs, nos faux pas, nos chutes, au risque de nous décevoir, de nous décourager. En avançant, on voit bien que par rapport à l'idéal qu'on se propose, les années passent et on dit je progresse moins vite que je voudrais. Bon, hein, c'est une réalité. Mais la vraie maturité permet d'expérimenter et la profondeur de la faute. Quand on grandit dans la vie spirituelle, bien, la conscience s'affine et on mesure mieux la laideur de nos fautes, de nos étroitesses, de nos ambitions, que sais-je, et la joie du pardon. Il faut tenir les deux. Sans quoi, la culpabilité qui appelle le pardon mais ne peut pas l'accorder, quand on se sent coupable, on va être pardonné, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de celui que j'ai offensé. Eh bien, sans quoi la culpabilité risque d'écraser et de détruire. Qui peut nous pardonner absolument? Dieu seul. C'est quand même déjà la question dans l'évangile. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Et Jésus fait comprendre qu'en sa personne, c'est Dieu qui est présent et qui a le pouvoir de remettre les péchés. Dieu seul, dont l'amour sans limite révèle la profondeur de son pardon. La lettre aux Hébreux touche beaucoup cet aspect-là, en recueillant l'effort pour être purifié de sa faute que faisaient tous les rites anciens, les sacrifices anciens, le jour du grand pardon, le Yom Kippour, etc. Et en montrant comment, en recueillant cet effort dans l'Ancien Testament, le Christ l'exauce plus pleinement encore dans son sacrifice sur la croix. Et c'est là que, à la croix, que en son Fils, Dieu vraiment nous pardonne absolument. Bibliquement parlant, la révélation du pardon de Dieu fait découvrir la vérité de son amour. Un amour véritable, ce n'est pas un amour bonasse qui dit « oh, ça n'a rien », c'est un amour qui dit « ben oui, ce que tu as fait est mal, ça c'est la vérité, mais mon amour est tel que je te pardonne ». Pour Dieu, pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on a fait n'est rien, non. C'est pour ça qu'il faut, pour recevoir le sacrement du pardon, il faut sincèrement avouer sa faute. Et Dieu, plutôt que d'agir, alors de réagir en condamnant, en acte, et je dirais, a d'autant plus lieu d'exercer sa miséricorde que la faute est reconnue en vérité. Le pardon fait découvrir la vérité de son amour, la révélation du pardon. Elle donne à Israël d'expérimenter le salut, qui n'élude pas, qui n'esquive pas notre finitude et notre faiblesse, mais nous enlève à notre propre malice et nous soustrait à la culpabilité mortifère, qui est porteuse de mort. Laissée à elle-même ne peut que nous enfoncer, nous refermer sur nous-mêmes. Les fautes du jardin d'Éden, la faute de Caïn contre Abel, que je rappelais, etc., la tour de Babel, du veau d'or, de David, adultère et assassin, les défections condamnées par les prophètes dans des procès d'alliance que Dieu intente à son peuple infidèle en dénonçant ces ruptures d'alliance. On esquisse là quelques moments dans l'histoire sainte, qui est une histoire jalonnée de fautes et de pardon. Dieu reprend sans cesse avec patience son dessein de salut. Le péché est objet d'une révélation qui va au-delà du sentiment de culpabilité. Dieu me révèle mon péché. Je peux, bien sûr, par la droiture de ma conscience, sentir que j'ai mal fait, mais la pleine révélation de mon péché n'apparaît quand Dieu me la révèle, quand je vois ce que le Christ doit faire pour nous arracher au péché. C'est en contemplant le Christ en croix que je mesure la laideur de mon péché. Donc, la révélation, le péché est une révélation qui va au-delà du sentiment de culpabilité. Et le jugement de Dieu est aussi jugement de salut, plus qu'un jugement de simple condamnation. Dieu juge, toi qui es juste lorsque tu juges, sans reproche lorsque tu juges, dit le psaume. La révélation du péché porte en elle le pardon et ouvre à son accueil. Ce pardon se donne radicalement dans l'acte de mourir de Jésus. D'ailleurs, il explicite le sens du don qu'il fait lui-même. Père, pardonne-leur. Qui transforme la trahison en geste de salut pour tous. Ça, c'est dans la Bible, en avançant bien sûr vers le mystère pascal de Jésus. Théologie du pardon. Humainement et juridiquement, le pardon ne se justifie pas. Le péché appelle de soi la justice rétributive de Dieu. Vous avez trop bu, vous avez fait des excès de vitesse, vous avez causé un accident, préjudice grave, ben, il n'y a rien à faire, vous devrez passer en jugement et encourir une peine. Ça ne veut pas dire que donc la justice des hommes est une justice rétributive. Tu as mal fait, ben, il y a un châtiment, une sanction. Non. Mais ça ne veut pas dire que la personne en question ne peut pas aller aussi par ailleurs se confesser et dire ben, je reconnais que vraiment là c'est de ma faute, j'en demande pardon au Seigneur, et être assuré que même s'il doit purger sa peine, ben, le Seigneur justement va l'aider peut-être dans ses jours ou ses mois de prison à apporter les conséquences juridiques de son acte. Humainement, juridiquement, le pardon ne se justifie pas. La miséricorde, ça appartient à l'amour du cœur de Dieu. De soi, une société n'est pas tenue à la miséricorde. Si ce n'est qu'à un moment donné, s'il y a des lois justes et des hommes sages, il y a des plages d'amnistie, des choses comme ça. Hein? Mais c'est Dieu seul qui vraiment pardonne radicalement. Le péché appelle de soi la justice rétributive de Dieu. Mais en même temps, les pensées de Dieu dépassent les nôtres. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. D'où la prière confiante des psalmistes. Alors, quelques extraits du bel article du VTB sur le pardon. Vous voyez comment cela s'atteste dans la Bible. Dieu pardonne aux pécheurs qui s'accusent. Vous pourrez voir les références. Loin de vouloir le perdre, loin de le mépriser, il le recrée, purifiant et comblant de joie son cœur contrit et humilié. Ça, c'est l'expression de notre psaume 54. Source abondante de rédemption, de salut, de rachat, il est un père qui pardonne à tous ses enfants. Déjà, psaume 103 envisage cet aspect paternel de Dieu. Après l'exil, on ne cesse d'invoquer le Dieu des pardons et des miséricordes, toujours prêt à se repentir du mal dont il a menacé le pécheur si celui-ci se convertit. Dieu ne peut pas nous pardonner si on n'est pas disposé à reconnaître sa faute et à désirer au moins de se convertir. Le livre de la sagesse chante Dieu qui aime tout ce qu'il a fait et qui a pitié de tous, qui ferme les yeux, entre guillemets, sur les péchés des hommes afin qu'ils se repentent. Non, pas qu'ils ne les voient pas, mais ils décident d'aller plus loin pour qu'ils redonnent une chance, réintégrer sa vie, son alliance. Qui les châtie peu à peu et leur rappelle en quoi ils pêchent afin qu'ils croient en lui. C'est-à-dire que lorsque Dieu châtie son peuple, il le fait... modérément, il pourrait anéantir son peuple, il ne le fait pas. Hein? Il lui donne dans l'épreuve de s'intérioriser, de prendre conscience de sa faute, de demander pardon à Dieu et de se trouver pardonné. Il y a de très beaux passages du livre de la sagesse en ce sens-là. Il manifeste ainsi qu'il est le Tout-Puissant dont c'est le propre de pardonner. La sagesse dit, la puissance de Dieu, il pourrait nous écraser, nous anéantir, mais non. Sa puissance est une puissance aussi justement de se maîtriser, de nous donner une chance de renouveau. Jésus et l'Église, les guérisons opérées par Jésus font signe vers son pardon. Épisode paralytique, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir, autorité sur terre de remettre les péchés, va relève tout. Donc ce relèvement physique est le signe de cet événement, ce relèvement intérieur qui est le pardon accordé. Il nous invite à demander le pardon et à pardonner comme le Père. L'Église est à la suite de Jésus, révélatrice du péché de l'homme et intendant de la miséricorde de Dieu sur terre. L'Église, dans la société encore, a comme mission d'oser dire là où elle pense que l'homme vraiment pêche et s'égare de Dieu. La question de l'euthanasie, d'avortement, etc. Mais à manier avec... je dirais respect des personnes, mais il y a une parole à dire qui révèle à l'homme son péché. Et en même temps, intendant de la miséricorde de Dieu sur terre. Il y a un accueil dans le sacrement du pardon. À travers le sacrement du pardon. Venons-en au psaume. Ça, c'est pour esquisser un peu l'arrière-fond des psaumes de contrition et de pénitence. L'arrière-fond, la situation du psaume. Dans la ligne des grands prophètes, le psaume, donc de demande de pardon de David, relie son expérience en une confession personnelle du péché. Il y a dans la Bible de beaux passages de confession collective. Nous avons péché, dit le peuple, de toute une liturgie de demande de pardon. Ici, c'est un psaume de confession personnelle du péché. Le titre en rappelle le contexte, les premiers versets. Quand, donc David compose ce psaume, quand Nathan alla vers lui, Nathan le prophète, parce que lui il était allé vers Bethsabée, l'épouse de Uri, son général qu'il a fait assassiner pour avoir sa femme. Donc c'est après le péché d'adultère et de meurtre quand même de David. Le sang versé dont une question dans le psaume, c'est pas simplement une métaphore. Comme Jérémie 31 ou Ézéchiel 36, ce psaume implique une théologie de la conversion et du pardon sous l'action purificatrice de l'Esprit-Saint. Ces passages de Jérémie et d'Ézéchiel, c'est les passages où les questions d'alliance nouvelle, de cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau. Hein, c'est des passages qui expriment le mouvement de conversion comme changement d'un cœur de pierre à un cœur de chair et passage à une loi inscrite dans le cœur et plus simplement sur la pierre et un esprit nouveau. Il se rapproche d'autres prières bibliques pénitentielles, Isaïe, Daniel et la dernière mention, qui est un équivalent de Daniel 9, au livre de Baruch. Si vous avez le temps, c'est une très belle confession du peuple qui reconnaît ses torts. À nous à toi Seigneur la justice, à nous la honte au visage, la confusion, car nous avons péché, on reconnaît son péché. Et puis il y a un second temps qui est l'appel à la miséricorde de Dieu, un peu comme une vaste démarche de réconciliation opérée par le peuple. Ce psaume était rapproché du tashlich, du jour de l'an, où l'on jette les péchés dans la mer, en récitant les psaumes 32 et 130. Le psaume 31 commence comme ceci. C'est une béatitude, heureux le pécheur pardonné, relevé de sa faute. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense et dont l'esprit est sans fraude. Je me taisais, mes forces épuisées à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait. Donc, il se consumait de remords, de culpabilité. Je t'ai fait connaître ma faute. Car c'est l'aveu. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, etc. Donc, psaume 31. C'est très beau. Il reprend ce chemin où le pécheur se décide à sortir de lui-même pour aller demander pardon et s'en retrouve libéré. Vous pourrez aller voir aussi l'autre psaume 130, on l'abordera. Et dans la liturgie, bien sûr, du Yom Kippour, le jour du pardon, on récite ce psaume de David. On va lire le psaume, depuis la terre, c'est bien. Je vais prendre la version. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'esprit généreux me soutienne. Ô pécheur, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Le vocabulaire est riche. Je vous avais donné dans l'introduction une feuille qui manifestait comment pour traduire le verset 3. Il y a des tas de traductions différentes. Par exemple, ne fût-ce qu'ici, le verset 3. Prends pitié, pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon sa grande miséricorde, efface mon péché. Le père Adam Macias traduit gracie-moi, Dieu, selon ta tendresse. Selon l'abondance de ta miséricorde, efface mes transgressions. Le français ne manque pas non plus de vocabulaire varié pour dire quand même l'offense. La faute, le tort, la transgression, l'iniquité, etc. Et l'hébreu est riche aussi de vocabulaire varié. Ça veut dire que c'est une réalité que spirituellement, le juif a beaucoup médité. Je vais faire une parenthèse. Donc, riche, le lexique du psaume décline et articule plusieurs registres. Le registre du péché, transgression, malice, faute, etc. Puis le péché, qui en appelle à la purification, lave-moi, à la recréation, restaure en moi un esprit ferme, rends-moi la joie. Et puis, à un moment donné, intervient le registre de la proclamation, parce que le pécheur pardonné a envie de partager cette bonne nouvelle à ses frères. Acclamer, enseigner, publier. Et on note aussi au passage l'importance des parties du corps. C'est un psaume très, très charnel, très corporel. Le vocabulaire ainsi des yeux, contre ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, je l'ai fait. Le vocabulaire des reins, de l'intimité. Voici, la vérité, tu la grées en mes reins. En une intime sagesse, tu me feras connaître. Les reins disent la faute de l'intimité de l'être. Les eaux, ils danseront les eaux que tu broyes. Verset 10. Détourne ta face, verset 11, 13, loin de moi. Ne me rejette pas loin de ta face. Le cœur, verset 12, crée pour moi un cœur pur, ô mon Dieu. Verset 19, un cœur brisé et abattu, tu n'en as pas mépris. Puis l'esprit qui intervient à quatre reprises, etc. Et puis au moment où il est question de publier, de dire le merveille de Dieu, ce n'est pas que il soit question de la langue, des lèvres et de la bouche, au verset 16 et 17. Et au passage, le sang, sang je l'ai mis au pluriel, parce que dans l'hébreu c'est vraiment pluriel, d'amim, purifie-moi des sang versets littéralement. Je passe à la page 28, commentaire. Le verset 7, une interprétation un peu délicate, hein. Que veut dire « Moi, je suis né dans la faute, j'ai été pécheur dès le sein de ma mère. » On pense à Jean, au chapitre 9, le reproche des scribes pharisiens à l'aveugle, il dit « Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. » Paul a ce sentiment « Moi, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. » Le verset 7, « Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. » Ne veut pas dire que parce que littéralement je prends la traduction littérale, voici en offense je fus engendré et en péché ma mère m'a conçu. Alors est-ce que ça veut dire que l'acte par lequel sa mère l'a conçu de s'unir à son mari est un péché? Non, c'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a conscience que dès le premier instant de sa vie il est, ben, c'est ce que Paul réfléchit avec le péché originel, il est exposé au péché. Dès qu'un être est conçu, c'est un être qui va entrer dans un monde pécheur et qui sera susceptible d'être atteint par le péché. Sensible à la prégnance corporelle du psaume, une belle paraphrase de ce verset dit « Dès le sein de ma mère, je te tournais le dos. » C'est une paraphrase un peu poétique, mais qui exprime quelque chose de ce verset. La structure et le mouvement du psaume. Vous voyez sur la feuille, j'ai mis en haut, la partie supérieure, à gauche, une première partie, les 11 premiers versets, qui forment un premier tout. Ils sont centrés sur l'aveu, la demande de pardon, et ils sont encadrés par « Efface mon péché », mes transgressions, verset 3, et à la fin du verset 11, « Efface tous mes péchés ». C'est ça l'expression qui encadre cet ensemble. « Efface mon péché », une demande, « Efface tous mes péchés ». Au verset 11. Le verset 10 qui dit « Fais que j'entende des chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais » annonce la suite, c'est-à-dire que la perception du pardon que Dieu accorde et puis la joie qui va s'en suivre. Il annonce le second volet. Alors le second volet, on le trouve, c'est le bloc en haut à droite. Le verset 12 à 19 avec un petit appendice des deux derniers versets. Ces versets 12 à 19, ils sont centrés sur le salut espéré. Rends-moi la joie d'être sauvé, verset 14. Pourquoi reviendront les égarés. Verset 16, libèrement du sang, Dieu de mon salut. C'est important, du salut espéré. Verset 14 et 16 plutôt que 15. Renouvellement du cœur et de l'esprit, c'est donc il faut inclusion aussi pour cette partie-là. Donc les questions, crée en moi un cœur pur, au verset 12, et ça se termine, dernier stick du verset 19, tu ne repousses pas un cœur brisé et broyé. Et de l'esprit. Et alors les versets 20-21, accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. On voit bien que ce psaume tout à fait personnel de David termine sur une note qui ouvre à la ville où il était roi, bien sûr Sion, Jérusalem. et un élargissement sur la ville sainte et les sacrifices du temps. Un parcours spirituel se laisse voir, c'est-à-dire qu'il y a un certain mouvement dans le psaume. Le psaume est assez long comparé à d'autres, et on a le temps de voir un cheminement spirituel en quelque sorte. Tout au long, le psalmiste s'adresse personnellement à Dieu. Il y a de nombreuses mentions de Elohim ou Adonai. Tablant d'emblée sur la tendresse miséricordieuse de Dieu, selon ta grande miséricorde, dit-il, le psalmiste exprime l'aveu contrit de sa faute particulière comme offense à Dieu et sa propension native au péché. Dès le sein de ma mère, j'étais péché. Mais il entrevoit dans la confiance la joie de sa délivrance et se promet d'en témoigner auprès des pécheurs égarés. Aux pécheurs, j'enseignerai tes choses. Avant de conclure, sur le repentir comme vrai sacrifice qui authentifie les sacrifices extérieurs. Alors tu accepteras, au verset 21, de justes sacrifices, pas simplement des sacrifices faits de manière un peu rituelle, mais des sacrifices habités d'un cœur justement sincère. Sur le haut de la feuille, la disposition concentrique que j'ai parcourue avec vous, laisse voir quand même, ça c'est Didier Rimaud qui le fait remarquer, qu'au centre il est question de la justice de Dieu. Aussi bien dans la partie 3 à 11, « Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. » Et puis dans la partie de 12 à 19, au milieu, « Ma langue acclamera ta justice, la justice de Dieu. » Auquel font allusion au dernier verset des immolations de justice, littéralement. Les justes sacrifices. Il est notable que le pécheur ne s'enferme pas dans le regard porté sur lui-même. Il considère Dieu bon, auquel il s'adresse, qui va le libérer. L'expérience, je termine ce paragraphe par quelques mots de Jean-Radier Maclès, l'expérience de David est fondatrice pour la conscience d'Israël. La prière du psaume est suscitée par la miséricorde de Dieu déjà présente au cœur du pécheur. Un peu comme la femme dans l'Évangile, elle a montré beaucoup d'amour parce qu'il lui était pardonné, ou bien puisque, pour qu'il lui soit... Dans quel sens est-ce que ça va? Elle a perçu que le Christ lui pardonnait. D'où sa reconnaissance, déjà. Et alors, le Christ, après cette reconnaissance du pardon déjà accordé, lui signifie explicitement, va, ton péché pardonné. Ça que je dis, la miséricorde de Dieu est déjà présente au cœur du pécheur. C'est parce qu'il intuitionne, il espère, il table sur la miséricorde de Dieu, qu'il va pouvoir, justement, la recevoir. Le choc de la révélation divine qui dévoile son dessein de vérité et de sagesse qui purifie. Tu aimes la vérité au fond du cœur. Donc David le prend conscience qu'il doit, après l'interpellation que lui a adressée Nathan le prophète, vous vous souvenez, qui lui fait comprendre qu'il a pris la femme du riz comme la seule brebis qu'un homme avait. Et bien cette prise de conscience lui permet de dire tu aimes la vérité au fond du cœur. Au centre, la joie du pardon fait tressaillir l'être en reconnaissance. L'action de Dieu rénove et recrée, l'homme est traversé par la grâce et devient alors une invitation à la conversion pour ses frères pécheurs. Le Dieu qui fait grâce, ça c'est le final, restaure Israël, la mention de Sion, de Jérusalem, et tout un chacun dans son intégrité. Alors, les reprises dans le Nouveau Testament, un peu plus trop long, et la liturgie, les évangiles ne citent pas clairement, ce psaume, mais on sent bien que l'esprit dans lequel Jésus pardonne aux pécheurs, ce qu'il vient révéler, les paraboles de miséricorde, tout ça va dans le sens, évidemment, de l'esprit et du mouvement du psaume. Et sur la croix, bien sûr, Père pardonneur, que s'atteste ce pardon. Le psaume 51 a pu être appelé la prière de l'enfant prodigue. Romain en cite le verset 6b, il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. En fait, toute la théologie de Paul dans la lettre aux Romains utilise le terme de justification pour dire l'acte par lequel Dieu nous fait miséricorde. On pas qu'il nous donne raison d'avoir fait le mal, mais quand Paul dit Dieu nous justifie, c'est sa manière d'exercer sa justice. Sa justice qui n'est pas simplement une justice rétributive, qui punit lorsqu'on a fait mal, mais une justice salutaire aussi. Ça, c'est l'expression, si on me tient bien, du Père Lyonnais, que je cite à la fin de ce paragraphe. Dieu fait apparaître sa justice en affirmant sa miséricorde, pleinement dispensée à son Fils, articulation de la justice rétributive et de la justice salvifique. La démarche de la pénitence chrétienne s'est toujours appuyée sur ce psaume, et on utilise le mercredi des cendres, l'office du vendredi matin, puisque le vendredi est le jour où on médite spécialement la passion du Christ, c'est le psaume prié au matin du vendredi. Dans la liturgie des défunts, c'est un des psaumes, avec le psaume du bon berger, et celui-ci, et puis on verra la fois prochaine. Saint Clément de Rome, qui est un auteur de la fin chrétienne de la fin du 1er siècle, donc très précoce, le reprend dans sa première lettre, et de nombreux pères de l'Église attestent son usage dans la liturgie baptismale aussi. Puisque pour l'adulte qui se demandait le baptême, bien sûr, à l'âge adulte, il avait plus conscience de son péché déjà qu'un nourrisson qu'on présente au baptême. Donc, il y avait cette psaume pénitentiaire. Et l'expression « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ton louange », le verset 17, c'est ce par quoi on commence l'office du matin, lorsqu'on prie l'office. C'est pas simplement « Dieu vient à mon aide, Seigneur à notre secours », mais le premier office du jour, c'est « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange ». C'est tiré de ce psaume. L'oraison, je ne prends pas par l'introduction de la réflexion, mais simplement l'oraison. Dieu de tendresse et de pitié, nous le comprenons en contemplant la croix où ton Fils s'est fait pécher pour nous, expression de saint Paul. Tu n'aimes que pardonner, tu ne veux que sanctifier. Vois nos esprits brisés et nos cœurs broyés par le repentir. Daigne en ta bonté nous purifier entièrement de nos péchés et nous renouveler dans la joie et la force de ton Esprit Saint, pour que nous chantions ta justice et publions à jamais ta louange. Marquez ces oraisons, la Bible de Jérusalem, je trouve, sont bien du psautier, sont bien construites, et respectent très fort les mots typiques du psaume. On recueille quand même de manière régulière et riche. Voilà pour ce beau psaume, parcouru un peu rapidement, mais vous voyez la richesse et comment il est riche, il est construit littérairement, et alors spirituellement il dessine un mouvement. Celui qui s'approche de Dieu, il espère trouver le pardon, le reçoit et alors a envie de le partager à ses frères. Et de... Je chanterai tout le monde pour mes frères et sœurs.
Est-ce
oui.
Que quand ils ont été écrits ces psaumes,
le psaume 51, ben là on l'attribue quand même assez directement à David. Donc ça c'est quand même un des psaumes dont on peut penser qu'il est directement sous l'initiative de David. Donc David c'est 1000 avant Jésus-Christ. Hein. Il y a d'autres psaumes. Alors ça ne veut pas dire qu'à partir d'un premier jet, il n'a pas été un peu retravaillé, etc. Mais en tout cas, le fondement du psaume, on le doit assez clairement à David. D'ailleurs, il porte un tel accent d'authenticité que ce n'est pas un autre qui s'est confessé à la place de David. Mais c'est vrai que d'autres psaumes, on a davantage de mal à dater. Comme les premiers versets, il assigne des circonstances précises hein, de David quand il revint vers Dieu après avoir. C'était dit le tout début, quoi. Hein. Qui n'a pas été repris sur la feuille ici, hein, que je vous ai lu tout à l'heure. C'est sur la feuille, vous retrouverez l'introduction au psaume qui fait partie du psaume, hein, et qui malheureusement n'a pas été reprise ici, comment directement l'énoncé du psaume lui-même. Mais les circonstances, c'est de David lorsqu'il revint au Seigneur. Voilà, bonne soirée.
Merci beaucoup.